l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Bonjour Robin, bonjour Morgane.
Bonjour.
Bonjour.
Donc on est chez vous aujourd'hui, au tout début du Pays Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques. On va visiter votre ferme, Morgane et Robin, à la découverte de vos alternatives locales sur la ferme de Nissibar.
On commence par aborder peut-être la maison déjà, parce que la maison a été faite de manière écologique, enfin en tout cas avec des matériaux de construction écologiques. Enfin, on a récupéré la ferme vraiment dans son jus, avec une maison envahie par les rats, qui prenait l'eau, les murs vraiment très abîmés. Quand on s'est installé ici, des amis sont venus nous aider pour pouvoir justement retaper un peu les bâtiments, quoi. Et du coup, on a fait des gros travaux d'assainissement, d'utiliser de la chaude, la terre qui était sur place, pour pouvoir faire les murs, faire une maison respirante. Voilà, utiliser sur le sol aussi des matériaux des tomettes, donc de la terre crue.
Terre cuite.
Alors, juste pour revenir sur les murs, tu dis à la chaux et avec la terre présente sur place.
Voilà.
Pourquoi la chaux? Comment ça se fait?
Ben, ces dernières années, on a énormément utilisé le béton, le ciment, et en fait, voilà, avec l'expérience, on a pu constater que ben, les maisons avaient besoin de respirer, en fait. Les maisons, avec le ciment, en fait, bloquent l'humidité dans les murs, et l'humidité dans les murs, dans le bois, c'est ce qui fait pourrir, écrouler les maisons, quoi. Et du coup, traditionnellement, ils utilisaient la terre, de la chaux, parce que c'est un matériau justement qui ne bloque pas l'humidité, qui permet vraiment à l'humidité de s'échapper et d'avoir des murs sains, quoi. Enfin, on essaye de vraiment beaucoup faire par nous-mêmes, quoi, que ce soit dans la construction, dans la rénovation, au niveau de la polyculture élevage et de la transformation derrière de la viande. Donc pareil, on fait le cochon, du coup on transforme, on fait les jambons, les saucissons. Donc au niveau de la cuisine, voilà, on peut retrouver aussi les produits de la ferme, quoi.
Alors derrière toi, il y a un poêle à bois.
Ouais. Alors comme c'est une petite ferme de 22 hectares avec un peu de prairies, un peu de bois, de fougères, enfin on trouve un peu de tout en fait. Elle est vraiment très diversifiée, donc en effet, on trouve le poêle, donc on fait le bois aussi l'hiver. On se chauffe qu'au bois l'hiver en mettant des pulls pour l'étage qui n'est pas très bien isolé.
Alors on fait un petit tour dehors pour voir la ferme dans toute son étendue, enfin peut-être pas les 22 hectares, mais...
C'est 4 heures là, c'est
total. Il y a pas mal de trucs autour. On fait quoi? On commence par les chevaux?
Non, les cochons là, les cimandres.
Alors du coup, ça, avant de sortir, tu remues ton énorme marmite, c'est quoi?
Ça, c'est des rillettes de moutons, parce qu'on a... On a fait des merguez en fait. On a fait un bon paquet de merguez là, et qui sont délicieuses. Et en fait, on met tous les os, c'est toutes les carcasses. Il y a 3 moutons là qu'on a découpés. Et du coup, c'est tous les os qu'on fait cuire pour récupérer la viande qui reste dessus. Et puis, on se fera quelques beaucoup de rillettes avec ça.
Objectif de ne rien jeter quoi. Donc, on essaye de valoriser, quand on abat un animal, de valoriser les boyaux pour refaire les saucisses derrière. Donc on les nettoie. Pareil pour la tête, là on cuit la tête pour pouvoir manger ce qu'il y a dedans. Les os, on les nettoie jusqu'au bout. Objectif, zéro déchet. On n'en est pas encore là, mais presque.
Et aussi l'autonomie dans la réalisation. Bon là, c'est pour nous-mêmes, quoi. C'est à usage domestique, et puis on en file aux copains. Après, on aime faire ça à la maison et puis apprendre à tout maîtriser de A à Z, de l'abattage en fait à la transformation. On aime savoir faire entièrement avec les animaux et voilà, maîtriser aussi, c'est encore une histoire de savoir-faire, quoi, de l'abattage à la maison, ce qui est vraiment radicalement différent par rapport à l'abattage à l'abattoir. Et bon, ben après, c'est pas, on peut pas commercialiser sur cette base-là, mais
Oui, c'est interdit de commercialiser les animaux tués à la maison.
Non? Oui, voilà. C'est dans un but commercial, on ne peut pas le faire. Il faut passer par l'abattoir. c'est normal parce que voilà, bon, il faut aussi être sûr. Ça demande une formation, quoi, de pas faire n'importe quoi non plus avec les animaux. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que les animaux qu'on abat pour nous à la maison, c'est beaucoup plus serein qu'à l'abattoir. On évite le transport, l'attente à l'abattoir, et toutes des heures de stress en fait pour l'animal. Et que finalement, nous, on l'accompagne, on fait ça le plus doucement possible.
Il y a très peu de stress au moment de l'abattage parce qu'ils nous connaissent, qu'ils restent dans leur contexte et que voilà, nous on a notre technique, en tout cas on essaye de faire un abattage sans douleur, avec le moins de souffrance et de stress possible. Donc c'est vraiment valorisant en tout cas de pouvoir voilà, accompagner l'animal jusqu'au bout, jusqu'à l'assiette, tout en le respectant, en essayant de le respecter au possible, quoi.
Ça fait pas mal au cœur des fois parce que on doit s'attacher à ces animaux.
Enfin, oui, évidemment qu'on s'y attache, que nous, on est vraiment très, enfin, on est beaucoup dans l'affectif, en tout cas avec nos animaux. Mais on a fait aussi beaucoup le travail de face à la mort, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, on a vraiment des difficultés face à la mort, que ce soit notre propre mort, la mort de l'animal. Et nous, on a envie d'accepter, de se responsabiliser avec la mort de l'animal. Donc au début c'était pas évident, mais le fait de gérer son stress, d'accompagner, que ça se passe bien, c'est vraiment un côté positif et on se valorise par rapport à ça. Et enfin, moi j'ai réussi en tout cas à le vivre bien et à passer le cap de l'abattage. Et à partir du moment où l'animal est mort, après c'est de la viande, et moi dans l'état d'esprit je suis pas en peine ou enfin, je passe le cap facilement. Voilà, je laisse l'affect de côté et voilà. On va du
Ouais.
coup là-bas?
C'est là l'entrée? Donc ces poules, elles sont dans le potager là?
C'est pas le potager, c'est le parc à poules.
Ah, il y a des choux, des
Ben ouais,
courges.
en fait on a été complètement tassé par les poules, quoi, parce qu'à force on a mis les cochons, ils nous ont tout retourné. On a mis les poules qui ont tout étalé. Et puis Morgane, elle a semé tous les restes de fleurs, les vieilles graines qu'on avait. Du coup, mais là c'est fini. Mais alors, ça a été magnifique,
Cosmos,
quoi.
bleuet.
Ah ouais, on avait tout. Et puis il y avait ces choux, là, on ne sait pas trop ce que c'est, qui a poussé dedans. La roche, de la courge, il y avait plein de vesses, même des céréales, là. Et du coup, ben, les poussins, ils ont grandi là-dedans. Mais c'était une jungle magnifique pour les poussins. En fait, on a fait un petit paradis pour la poule, quoi. Ça a marché du tonnerre, quoi. On a pas mal de poules, une bonne vingtaine. Et c'est des poules, pour la plupart, c'est des poules marrons. Des poules qui viennent de Charente, là, et qui ont la particularité de faire des œufs marrons. Des œufs en chocolat, là, ils sont tout foncés. C'est une vieille race, et elle fait des jolies poules noires ou aussi bleues, là, comme le coq, là, qui est là. Et puis là, on a plein de poussins cette année, et du coup, voilà, ça s'agrandit un peu la basse-cour. On a une jolie basse-cour avec de très beaux poussins. On a plein d'œufs, voilà, ça c'est aussi une base d'évolution, d'agrandir la basse-cour. On a des canards aussi. C'est Morgane qui s'occupe beaucoup de la basse-cour. Là, il y a des canards qui sont en train de naître, là. Donc voilà, petit à petit, ouais, on commence à avoir une basse-cour vraiment sympa, jolie. Et puis, poules en liberté aussi, voilà, on les a avec nous. Elles nettoient aussi la grange, tous les grains qu'on laisse tomber quand on concasse pour les cochons. Voilà, ils sont.
Ça a son petit charme d'aller chercher les œufs.
Vous savez où ou pas? Parce que comme elles sont en liberté,
Ah ben, ça a son petit, voilà, il manque les enfants pour aller chercher les œufs quand elles ont changé de nid, mais non, ça va, ça va, ça va.
En
On
plus,
arrive
les œufs en
à trouver.
chocolat, c'est à Pâques, on va faire carton plein. On va inviter les gens, en fait, à chercher les œufs sur place.
Et du coup, polyculture élevage, vous, votre objectif, c'est d'avoir un... Tu parles de poules, de canards, enfin, parce que finalement, si vous faisiez que des œufs, ce serait une source de revenus facile, peut-être, parce que vu le prix où ça se vend, les œufs bio, ou, pas forcément labellisés, mais vous, c'est pas, enfin, votre objectif, c'est plus la diversité dans la ferme.
Voilà, tout à fait. C'est vrai que, enfin, moi, en arrivant ici, j'avais envie de faire de tout. Enfin, voilà, j'aime bien, ben, très curieuse. J'aime bien la ferme dans son ensemble. J'avais pas l'envie de me spécialiser dans un projet. Au jour d'aujourd'hui, quand on monte un projet agricole, il faut de toute façon se spécialiser pour pouvoir avoir une rentabilité, une productivité. Et que moi, je ne savais pas vers quoi me spécialiser, vers quoi m'orienter, parce que ma priorité, c'était pas la productivité. Moi, j'aime la diversité, et c'est sûr que on travaille vachement ça, en fait, d'avoir plusieurs, de la diversité au niveau des animaux, de la complémentarité, de pouvoir utiliser les cochons, à un moment donné, utiliser les poules qui seraient complémentaires au travail des cochons.
Alors vas-y, alors
Voilà,
justement, c'est
voilà.
intéressant, hein?
Elle réside là, la
Ouais.
polyculture élevage. Nous, la particularité, c'est qu'on n'a pas de tracteur ici, en fait. On n'a pas de machine. On a un C15, enfin, voire des
Ah,
fois
il y a le cochon qui
plusieurs, mais.
s'excite là
Ouais.
derrière.
Ouais, c'est Bala qui s'excite. Elle est un peu nerveuse parce qu'elle est blessée et enceinte à la fois et du coup enfermée. Donc elle a tendance à être un peu vive.
C'est un
Et.
cochon noir?
Ouais, c'est une truie gasconne là qu'on a depuis pas longtemps. Salut Bala. On a eu un problème, elle s'est blessée là. Quand on l'a mise avec les autres, là, elle s'est battue et voilà. Puis elle prépare, elle est pleine. Et comme elle a été anesthésiée, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour les petits.
Vous avez dû
Mais
appeler le vétérinaire?
on y allait, quoi. On l'a chargé dans.
En une demi-heure, on a réussi à charger un cochon, on était très fiers. Mais
Parce
ça
qu'il est
va.
énorme, hein.
Ouais.
Enfin, combien il pèse à peu près là?
Bon, quasi 200 kilos, quoi. 180. Et du coup, ouais, plutôt que faire avec le tracteur, comme on n'a pas de tracteur, on est en. La polyculture élevage, elle va aussi. En fait, on essaye de travailler le sol d'une part avec les chevaux. Pour entretenir les cultures, parce qu'on a de la pomme de terre, du maïs, enfin, on a 2000 mètres carrés pour l'instant de culture. C'est pas encore énorme, mais on tente un système avec en semant des engrais verts derrière les cultures qui nous permet d'envoyer les cochons. En fait, on fait des parcs mobiles sur ces parcelles et on gère l'impact des cochons sur la terre. En fait, ils font un déchaumage où ils peuvent même un petit peu retourner le sol et puis ils amendent aussi du coup en étant là.
Donc, si je traduis, en gros, ils mangent les herbes quand tu dis déchaumage et
Ouais,
ils amendent, ça veut dire en gros, ils font caca dessus et
voilà,
ça
c'est ça.
engraisse, ça engraisse,
C'est
quoi.
ça, ouais,
Ça nourrit
tout
la terre.
simplement. Donc finalement, ça fait.
Elle a son ballon?
Oui,
Ah,
c'est
c'est
ça.
beau. Ah, mais vous respectez les normes européennes.
Ah ouais, c'est
Ah
ça, il
bon, je
faut.
savais même pas.
Oui, quand on ennuie les animaux, ouais. On s'est pas ruiné avec le ballon, nous, non. Ni avec les barrières, d'ailleurs.
Ouais, vous
Alors.
ici, c'est tout un peu de la récup de toute
Nous, on
façon.
est pour l'instant, voilà, bon, on a fait, y a, on n'a pas fait d'emprunt, on n'a pas demandé de DGA, pour l'instant, on n'a pas de machine, on a les moyens du bord, donc on a quatre bras, on a des cochons, on a des poules, on a des chevaux,
Vous débrouillez avec
et
ça, quoi.
voilà, et puis on a quelques savoir-faire et puis surtout beaucoup de capacités. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Aussi, le fait de mettre du poison. Après, bon, être avec les rats, il faut les limiter, les rats. Mais. C'est des produits aussi qu'on retrouve derrière dans toute la chaîne, qui se retrouvera au final peut-être dans le fumier ou dans les poules. Et que ça, c'est des perturbateurs endocriniens. Et même à dose toute petite, elles viennent impacter en fait le lieu, la terre. Donc pour moi, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention et les considérer globalement, même au niveau de la maison, pour l'ensemble du foncier, tout se tient à ce niveau-là, quoi.
Bon, du coup, votre beau cochon qui va bientôt avoir des petits, comment ça se passe sur la ferme? Vous allez le manger quand, celui-là?
La truie, la truie, bon, on la mangera un jour, quand elle aura fini sa carrière de reproductrice. Ouais. Donc on l'invite à faire des petits.
Et du coup, vous avez un mâle sur
On
la
a un
ferme,
Vera, ouais. On va, il est à côté, là-bas. Et bon, ben, elle va nous faire des porcelets. C'est les premiers qu'on va avoir. On n'a pas eu encore. Donc là, on a plein de choses à apprendre à ce niveau-là. On a acheté des porcelets jusqu'à maintenant. Et en fait, la personne qui nous vendait les porcelets nous a revendu tout son cheptel. Donc voilà, depuis peu, on est autonome pour les porcelets. Donc c'est vraiment déterminant, ça, pour pouvoir faire un peu de marge avec les cochons, parce que c'est pas évident. Faut vite avoir beaucoup d'animaux, quoi, pour on se spécialise dans le cochon, quoi. C'est ça qui nous permettra de gagner un peu d'argent, et puis aussi la pomme de terre. Là, on arrive à faire pousser de la pomme de terre ici. Et...
Vous leur donnez quoi à manger à vos cochons?
On leur donne des céréales, hein, des céréales bio, là, qu'on achète directement chez les producteurs locaux. Voilà, donc on n'est pas labellisé bio, mais toute l'alimentation, tout est bio. Et on leur donne aussi du coup pas mal de fourrage. Pour les porcelets, c'est régime aux orties qui marche bien. On a aussi du petit lait récupéré chez une voisine qui fait du fromage de chèvre. Donc tous les 3 jours, on va récupérer son petit lait, on le distribue aux cochons.
Donc c'est les restes de la production des fromages.
Voilà, c'est après, une fois que le fromage a caillé, il reste le petit lait. Et ça, c'est un très très bon aliment pour les cochons, qui est équilibré, en fait, directement équilibré. Et puis ça apporte du calcium, et les truies ont besoin de calcium, et les porcelets aussi, pour la croissance.
Ce qui n'est pas évident avec les cochons, c'est que c'est un peu comme l'humain aussi, ça a besoin de pas mal de protéines, pas mal de céréales, et que voilà, c'est intéressant les cochons quand on fait du fromage, parce que justement il y a le petit lait qui est très équilibré au niveau de la protéine, de la céréale, sauf que quand on n'a pas ce genre de choses, bah, du coup, faut acheter l'alimentation, faut acheter suffisamment de céréales, protéagineux, pour faire une alimentation équilibrée, et on ne trouve pas forcément facilement, en tout cas, des protéagineux, genre du pois, de la févrole, partout en bio, et que ça coûte vite cher.
D'où l'intérêt, donc, peut-être de se mettre en lien avec d'autres fermes qui partagent votre vision de l'agriculture aussi.
Tout à fait, là. Par exemple, on va acheter du grain chez un monsieur qui travaille pas mal ça, enfin un céréalier, qui travaille pas mal ça en fait, qui essaye de mettre en place dans ses parcelles des cultures déjà mélangées, des métayes, donc avec déjà un mélange de céréales, protéagineux, pour avoir une alimentation équilibrée pour l'élevage, justement. Donc,
elle se gratte.
Ouais. Mais là, il y a sa blessure là, qui doit la gratter, ouais. Je pense.
Non, et puis un cochon, ça se gratte.
Et
tout
un
le
grache,
temps.
Ouais. Ouais, c'est
on a
sûr.
Ça, l'arme à gratouille. Voilà, pour détendre le cochon avec les tris, ça marche vachement mieux. C'est une étrie pour les chevaux. En fait, depuis qu'on fait ça, elle devient insensible aux gratouilles à la main. Alors. Voilà, ça, elle aime bien. Ça, c'est chouette. Voilà, Bala. Elle s'appelle Bala. Elle est très sympa.
Bon, bah, on lui souhaite de faire des beaux petits cochons.
Ah oui, deux fois qu'une.
Et alors du coup vos cochons, bon, tuer le cochon, il paraît que c'est une sacrée expérience.
Une bonne expérience.
Ouais, une expérience intéressante mais assez extraordinaire pour les gens qui ne connaissent pas. Vous faites ça seul ou vous appelez des amis, parce qu'il y a la transformation derrière, c'est un énorme travail.
Ouais, bon, c'est bien d'être quatre, pour un cochon, à quatre c'est bien quoi. Faut pas être trop non plus, parce qu'on finit par se marcher sur les pieds.
Ouais.
Après, on a un ami qui vient abattre. Nous, on abat pas les cochons nous-mêmes. Okay. Donc, il y a quelqu'un qui vient pour l'abattre et le découper. Et ça nous prend 2-3 jours, quoi. 3 jours en comptant le ménage pour un cochon, en tout cas. Après, petit à petit, nous, on veut s'améliorer et puis pouvoir faire deux cochons d'un coup, quoi. Pour être plus efficace et... En tout cas, quand ce sera pour la revente des produits transformés, là, de louer un local de transformation et de faire ça de façon plus un peu plus conséquente en volume, quoi. Après, les cochonailles à la maison, voilà, nous on fait ça traditionnel avec au chaudron et dans la cuisine, quoi.
Ouais. Vous avez pas un atelier finalement?
Pour l'instant, non, mais on aimerait bien.
En bonne et due
là.
Forme, parce qu'il doit y avoir des normes pour après pouvoir revendre. Hein.
Ouais, voilà, bon, là je me renseigne justement sur les normes. Ce serait vraiment confortable pour nous d'avoir un local de transformation agréé, enfin, en tout cas, qui. Et à la maison, quoi, ça ce serait très confortable. Après, c'est des investissements, faut voir, mais c'est pas le bout du monde non plus d'avoir quelque chose.
Ouais, parce que d'autres options, certainement, que certains de vos voisins font peut-être, c'est en tout cas d'autres paysans dans le coin, c'est d'avoir un atelier partagé de transformation.
Voilà, ça ce serait super. Et
voilà. Ça existe.
Après, on a tous envie aussi que ce soit chez nous et que ce soit confortable. Ouais. Donc, voilà, nous on a tout sur place, donc. On finit par y prendre goût parce que bon, ici, dès qu'on veut circuler, c'est tout de suite minimum 20 minutes pour aller quelque part.
Ouais. Pas trop loin, c'est une heure, là, au moins une heure, là, l'atelier de transformation collectif.
Voilà, quand on. Les cochons, c'est des êtres très très sociables. Enfin, on peut les domestiquer comme des chiens, en fait. C'est impressionnant le rapport de confiance qu'on peut avoir, surtout avec elle, qui a grandi avec nous. Mais elle, on est en totale confiance. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Voilà, ils sont fermés avec des fils, mais bon, on peut leur ouvrir, on les mène, on peut les emmener. Un peu où on veut, en parlant surtout à leur estomac, mais ils sont vraiment intelligents et c'est très intéressant comme animal parce qu'il a pas peur et on peut vraiment les mener en fait, mener en troupeau et puis être copain avec eux, quoi.
Qu'est-ce que vous pensez après vendre issu de votre production ici à la ferme de liée au cochon?
Tant qu'on peut vendre le cochon sous toutes ses formes en fait, et si possible en caissette, produit transformé. Et livrer à domicile, ça ce serait la prestation maximale.
D'accord, livrer.
Mais parce qu'on est obligé de transformer et d'essayer de faire le maximum de valeur ajoutée, quoi, sur le produit. Parce qu'on n'a pas beaucoup de cochons, quoi, nous, c'est des petits effectifs. Et du coup, pour vivre, ne serait-ce qu'un petit peu, enfin, gagner un peu d'argent, il faut vite 50 cochons. Et du coup, voilà, c'est vite un système d'usine. Donc le fait de diversifier et d'avoir du produit transformé, c'est le joker pour pas avoir un chargement trop important. Et après, trop de cochons, bon, on détruit tout, quoi.
Du coup, vos cochons, comme ce que tu disais tout à l'heure, vous les mettez... T'avais fait une culture spéciale qui pouvait manger, ils nourrissent la terre et après tu peux replanter quelque chose sur cette terre.
Ouais, ouais, bon, ici tout est en rotation en fait. À chaque fois qu'on pense un parc, qu'on pense une culture, on essaye de l'inclure dans une rotation, même jusqu'aux chevaux, au pâturage des chevaux qui nous servent à débroussailler des bords de parcelles ou à entretenir la fougeraie, limiter des ronciers. Les cochons, on peut aussi les mettre dans des ronciers à des moments donnés. Mais les cochons, il faut pas qu'ils passent plus de 6 mois sur un parc parce que sinon ils commencent à abîmer les arbres et donc ils doivent tourner sans arrêt. Comme les cultures, c'est pareil en fait. Une pomme de terre, on peut pas la replanter au même endroit l'année d'après. Et tous les 5-6 ans, là, on peut revenir dessus. Du coup, on a cette notion de rotation partout, aussi au niveau du pâturage et fauche des parcelles. Et bon, mais tout s'intègre là-dedans, quoi, dans la rotation pour que la végétation puisse toujours se refaire derrière et même se refaire en mieux. Derrière les cochons, on peut semer directement certaines choses, des engrais verts qui vont améliorer le sol et petit à petit d'avoir une terre de plus en plus fertile, notamment sur les terres de fougeraie qui peuvent être améliorées petit à petit s'il y a de l'humus qui revient. Les cochons, ils font des trous aussi, ça maintient l'eau, ça retient l'humus. Enfin, il y a plein de choses à faire avec leur travail.
Quand tu parles de fougeraie, donc c'est des prairies à fougères.
Oui, c'est ça, pas des prairies, du coup c'est zone des landes en fait. Ouais. Mmh. Des landes, bon, ici il y a des parties de fougeraie qui sont très jolies, quoi, avec pas beaucoup de pentes et qui petit à petit vont aller vers la prairie si on l'y invite, quoi.
Oui, parce que les fougerets, c'est plus de la déprise agricole, non?
C'est encore exploité aujourd'hui justement pour la litière, pour la litière pour les animaux. Donc comme c'est une région d'élevage, elles sont encore exploitées, quoi. Mais que dès que c'est possible de transformer la fougère en prairie, les paysans le font, parce qu'elle a plus de valeur ajoutée avec une prairie qu'avec une fougeraie, quoi.
D'accord.
Et il y a beaucoup de zones ici où la fougeraie est très en pente, où c'est difficile à exploiter. Et que voilà, nous on a envie d'expérimenter des choses. Bon, ça reste de l'expérimental, mais avec les cochons, d'utiliser les cochons sur la fougère pour pouvoir à terme la transformer, la valoriser. Comme eux, ils s'occupent de retourner le sol, de nous faire des terrasses éventuellement. Voilà, sur les pentes par exemple, de terrasser les pentes. À terme, ça pourra refertiliser la fougère et du coup amener peut-être, enfin amener l'herbe et avec le temps transformer la fougère en prairie aussi. Enfin voilà, ça reste des idées, des envies, des possibilités. Mais on a fait un petit test là derrière où on a fait voilà, on a fait un petit bout de plessage. Donc la haie, bon on va aller voir. En fait, il y a la zone de fumier où on stocke le fumier à la sortie de l'hiver ici. Et du coup, juste en dessous le fumier, il y a une toute petite pente. Et du coup, toute l'eau, le lessivage, l'eau de ruissellement coule sur cette petite parcelle. Et du coup, part après dans la prairie ou quoi.
Ça fertilise.
Et ça fertilise, mais démesurément. Et du coup, le but du jeu, c'est que ça retienne un peu toute l'érosion qu'il y a, tout le lessivage qu'il y a des eaux du fumier. Ça retienne pour pouvoir ici, là par exemple, là on a mis les courges pour pouvoir
qui sont très gourmandes et qui sont
qui sont
très
très
contentes.
gourmandes et très contentes d'être au pied du fumier.
C'est quoi là, des potimarrons?
C'est des butternuts, mon ami. Et d'autres, pardon, oui, bleu de Hongrie, je suis bête. Oui, des petites courges bleues, un peu comme les butternuts, une chair orange très ferme, assez sucrée. Voilà. Donc on a fait la petite haie plessée ici pour pouvoir retenir toute la terre, toutes les eaux du fumier en fait sur ce petit bout de parcelle. On a mis les cochons ici qui ont retourné toute la terre, ramené toute la terre en bas de la pente. Du coup en fait les cochons nous ont terrassé en fait la parcelle quoi. Enfin, c'est eux qui ont creusé, qui ont réaplani un peu tout ça. Donc le fait que ce soit plus plat, ça se lessive moins. Il y a plus de matière organique qui reste au sol. Du coup, voilà, ça s'accumule. Du coup, il y a plus de fertilité. Donc voilà, ces petits tests-là, on aimerait bien pouvoir le développer et le mettre un peu plus sur des zones un peu plus en pente où ça a vraiment été lessivé, érodé, où il y a plus beaucoup de matière, d'humus au sol, quoi. Et bon, ça reste du test, mais qui, pour l'instant, c'est positif. Les courges s'y plaisent.
Du pressage, là, on ne voit pas du coup en été, mais on a plié des branches. Ici, il y avait un trou, là, il y avait des trous partout. Puis du coup, on a coupé les branches, mais pas complètement, en laissant une circulation de sève. Et on les met à plat comme ça. Du coup, ça rejette de partout, quoi.
C'est quel arbre ça?
Ça, c'est du sol. Le sol, c'est pratique parce qu'on peut aussi le replanter dans les endroits humides et ça fait un piquet vivant, il repart, là, comme il y en a quelques-uns qui sont repartis. Et du coup, ça fait des barrières très solides, très étanches. Il faut entretenir un petit peu, quoi, mais c'est facile à faire et voilà, ça peut être rapide, très efficace et ça dure longtemps. Comme c'est vivant, ça dure plus longtemps.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet.